Bonsoir. Lutte contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille. Le monde totalise l'année prochaine 30 ans du programme de Beijing qui appelle à s'unir pour protéger la femme contre la violence. En République démocratique du Congo, de nombreuses activités de sensibilisation sont organisées depuis lundi un peu partout dans le pays dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes prévues chaque année de novembre à décembre. La chef de la MONUSCO, par exemple, a condamné la pratique de publication et propagation des images de violences faites aux femmes sur les réseaux sociaux. Bintou Keïta estime que la diffusion répétée sur les réseaux sociaux des images d'horreur viole les règles de la dignité et du respect de l'être humain. Les rapports officiels de l'ONU, quant à eux, répètent régulièrement que les violences faites aux femmes, bien que de mieux en mieux sensibilisées, restent toutefois en hausse dans le monde. Une femme sur trois a déjà subi dans sa vie des violences liées au genre et ces rapports ajoutent même que toutes les 10 minutes, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Quelle analyse faire des 16 jours d'activisme en faveur de la femme de cette année 2024 en République démocratique du Congo et de la problématique des violences subies par la femme dans le monde? Que faire pour efficacement réduire, voire arrêter cette tendance? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous sommes avec Tania Mokolo Djoli, conseillère parlementaire au cabinet de la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Tania Mokolo Djoli, bonsoir.
Bonsoir.
Avec Tania Mokolo Djoli, il y a aussi Saouli Diakese, secrétaire exécutive en charge des cliniques judiciaires dans l'Association des femmes juristes congolaises dans la province du Congo central. Saouli Diakese, bonsoir.
Bonsoir.
Mais aussi un homme parmi les deux femmes, Jean-Claude Disachi, bonsoir.
Bonsoir Monsieur Donat Madinda et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi, la fréquence de la paix ainsi qu'à mes co-débatteurs.
Jean-Claude Issachi, vous êtes éducateur, conseiller d'orientation, psychologue et assistant à l'université de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Lutte contre les violences faites aux femmes et la jeune fille. Le monde totalisera l'année prochaine 30 ans du programme de Beijing qui appelle à s'unir pour protéger la femme contre la violence. En République démocratique du Congo, de nombreuses activités de sensibilisation sont organisées depuis lundi un peu partout dans le pays dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes prévues chaque année de novembre à décembre. Écoutons, pour illustrer cette problématique, quelques femmes victimes de viols, leur témoignage est résumé ici par Emmanuel Elamenji.
Les femmes de la province du Nord Kivu évoquent des cas de traumatismes subis comme conséquence des conflits armés, c'est des exécutions arbitraires, des tortures, des violences sexuelles, des mariages forcés et autres. Une survivante de violences sexuelles au Nord Kivu témoigne.
Au Nord Kivu, nous vivons grâce au café et cacao. Mais dans nos champs-là, il y a les ADF. Ils vous imposent de coucher avec eux. Vous n'avez pas de choix, pas d'endroit pour échapper. Vous êtes obligé de céder pour enfin amener les cafés et cacao pour la survie. Moi, personnellement, on m'avait gardé pendant 3 semaines en train de violer chaque jour. Ils couchent avec les femmes sauvagement, donc de la même façon qu'ils tuent les gens sauvagement.
Pour plus de protection et de sécurité, ces femmes demandent aux autorités du pays la relève des troupes militaires qui ont trop duré dans cette zone.
Pour mettre fin à cette situation en Nord Kivu, c'est depuis longtemps qu'on sollicitait qu'on change. Les unités, c'est tous les militaires qui sont là. On change vraiment totalement. Les militaires de FARDC, surtout ceux qui sont à Kassindjibeni, et on puisse lutter ensemble contre l'impunité.
Signalons que la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes vise la lutte contre l'impunité et l'accompagnement des femmes et filles en situation de violence.
Tania Mokolo-Njoli, conseillère parlementaire au cabinet de la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. En 2024, que signifie pour vous 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles? Mais que signifie aussi pour vous en 2024 la lutte contre les violences faites à la femme?
Merci beaucoup pour la parole. Bonsoir à tous et bonsoir à tous les auditeurs. 16 jours contre les violences basées sur le genre. J'ai l'impression que malheureusement dans notre pays, on adopte beaucoup de slogans et derrière, on n'a pas vraiment un grand travail plus en profondeur, plus il faut pas oublier qu'on est dans un climat en RDC de conflits prolongés. On a également une société patriarcale qui pèse au niveau culturel. On ajoute encore une faiblesse des institutions judiciaires. Hein. On parle tous de justice malade. On aime bien se répéter des mots comme ça. Mais on a surtout un manque de données fiables. Le pays est tellement grand. Il y a beaucoup de femmes qui ne s'expriment pas. L'insuffisance de collecte des données par rapport à ça, ça rend difficile une évaluation complète de l'ampleur et des impacts.
Allô, Tania Mokolo?
Allô?
Oui, oui. Vous avez la parole, vous avez la parole. Nous vous entendons très bien. Continuez.
Ah, d'accord. Alors, bon, comment lutter? D'abord, il faut connaître, voir les facteurs en profondeur. C'est, bon, économiquement, les femmes ne sont pas toutes indépendantes. Hein. Il y a une faible autonomisation, surtout en dehors de Kinshasa, parce que le Congo, ce n'est pas que Kinshasa. L'inégalité d'accès à l'éducation, ça, si vous allez dans les provinces, c'est terrible. Et il y a beaucoup, il y a vraiment une absence de loi protectrice et surtout efficace et appliquée. Parce que bon, j'ai été parlementaire, je sais que on débat beaucoup de lois, on en approuve beaucoup, on a beaucoup de projets de loi, mais l'applicabilité, l'application sur le terrain, on n'y arrive pas toujours. Alors comme je dis, il y a dessus les facteurs culturels, difficile de d'arrêter de voir la femme comme inférieure ou la propriété de l'homme. Et il y a aussi ce côté traditionnel, coutumier, où on justifie et on tolère certaines violences, comme les mariages avec les jeunes filles qui sont en dessous de la majorité, hein, des enfants, etc., etc. Et il y a d'autres facteurs maintenant qui sont dus à la situation à l'est du pays, des déplacements massifs des populations à cause des conflits et dans ces coins-là, un manque d'accès aux services de santé et d'assistance. Bon, heureusement, on a quand même beaucoup d'ONG qui sont sur place pour lutter contre les conséquences, les traumas, les traumas physiques et psychologiques, les risques des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH, sans parler des grossesses non désirées et le risque d'être chassé de la communauté parce que la communauté a honte. Alors ça crée une érosion du tissu social et familial et la femme reste dans un cycle de pauvreté et les inégalités sont exacerbées. Ça déstabilise aussi les communautés qui sont touchées par toutes ces attaques.
Tania Mokolo, ça fait beaucoup de choses, hein. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ça fait beaucoup de choses, non?
Oui, ça fait beaucoup.
Alors, dans ce trop plein de choses.
C'est un grand travail.
Tout à fait. Dans ce trop plein de choses, est-ce que la procédure n'est pas biaisée d'avance? À vouloir chercher plein de choses au même moment, et quand on met tout ça devant des constats qui sont des constats internationaux. Nous venions de mentionner par exemple les rapports de l'ONU qui sont des rapports internationaux et qui résument parfois d'autres rapports internationaux qui reconnaissent que les violences envers la femme qui sont de plusieurs ordres, comme vous avez mentionné, les violences administratives, les violences professionnelles, sociales, culturelles, psychologiques, physiques, même si aujourd'hui elles sont mieux popularisées, mieux publiées, mieux sensibilisées, elles restent quand même toujours aussi nombreuses qu'avant. Est-ce que pour vous, Si cela continue, c'est parce que le problème est mal posé ou pas? Parce que vous reconnaissez avec nous déjà d'entrée de jeu que c'est beaucoup de choses au même moment et en même temps beaucoup de demandes au même moment. Est-ce que selon vous, il faut continuer comme ça ou bien le problème est peut-être mal posé et qu'il faut le poser différemment?
Je pense que la volonté de lutter contre ce problème est là. Alors, est-ce qu'il est mal posé? Je ne pense pas qu'il soit mal posé, mais je pense que la tâche est grande. La tâche est grande et que peut-être il faut l'aborder différemment, je pense. J'ai l'impression que on l'aborde par plusieurs angles, mais sans aller plus en profondeur. Je prends par exemple le soutien aux victimes. On a commencé. On a commencé avec la prise en charge des victimes, et mais il y a aussi l'éducation et la sensibilisation. Ça, j'ai l'impression qu'on a quand même du mal à le faire au niveau scolaire, parce qu'il faut commencer tôt. L'implication des hommes dans la masculinité positive, parce que les hommes ont un grand rôle à jouer, nos fils, nos frères, nos pères, nos maris, ils ont vraiment beaucoup à faire pour que la situation change. Et la masculinité positive, on a commencé à en parler il n'y a pas si longtemps que ça, donc on aborde petit à petit, même le renforcement du cadre juridique et institutionnel. Donc vraiment, on aborde chaque point petit à petit, mais comme je dis, le Congo est un pays tellement grand. Moi, j'ai été élue de la province de l'Équateur, dans un territoire complètement enclavé. Ils n'en sont pas là, ils ne sont pas au même niveau que Kinshasa ou que Goma, où je pense qu'on en parle beaucoup plus du fait des conflits. Donc la tâche est énorme et la façon dont on l'aborde aussi, c'est très très important.
Alors, comme on a dit, les revendications et les problèmes à résoudre pour régler la question des violences faites aux femmes qui sont un problème absolument à bannir, qui sont un problème absolument à résoudre, reste donc encore importante en 2024. Entre-temps, le programme de Beijing atteindra ses 30 ans l'année prochaine en 2025. Les 16 journées d'activisme ont commencé déjà depuis quelques années. Il y a des structures internationales qui encadrent la défense des droits de la femme qui existent depuis un certain nombre d'années, notamment ONU Femmes. Alors, en 2024, Tania Mokolo Njoli, qu'est-ce qui est à la base de la continuation de ces problèmes selon vous et comment, de manière stratégiquement correcte, on pourrait agir pour améliorer ces objectifs de lutte contre les violences faites à la femme?
Bon, d'abord, les luttes contre les violences faites à la femme, ce n'est pas un problème exclusivement congolais. Hein. Même dans d'autres pays, ils ont du mal. En France, il y a le procès Gisèle Pelicot qui fait beaucoup de bruit. La femme qui était droguée par son mari pour être violée par d'autres hommes. Donc ça veut dire que vraiment, même dans des sociétés, on va dire, plus où il y a un cadre juridique plus renforcé qui existe, il y a quand même ce genre de problème. Donc c'est vraiment un problème multidimensionnel dont il faut s'attaquer aux racines chez nous qui sont structurelles et culturelles. Et il faut vraiment qu'on puisse renforcer les mécanismes de prévention, de protection et en aval de justice. Pour moi, l'engagement doit être collectif. C'est pas seulement une histoire de « je suis une femme, je m'engage, tu es un homme genré ou masculin positif, tu t'engages ». Non, tout le monde doit s'engager, le gouvernement, la société civile, les communautés et les partenaires internationaux. Je ne pense qu'il n'y a qu'en s'engageant tous cet engagement collectif qui permettra à chaque femme et à chaque fille de pouvoir vivre libre de toute forme de violence.
Tania Mokolo Njoli, allons avec 2-3 cas concrets. Comment, selon vous, en 2024, on peut réussir à réduire, voire faire cesser les viols, par exemple, en République démocratique du Congo et dans le monde? Comment on peut arriver à arrêter les injustices professionnelles, les violences physiques, domestiques ou même sociales?
Moi, je pense qu'il faut commencer par le cadre juridique et institutionnel. Si on a plusieurs exemples, plusieurs procès, plusieurs personnes arrêtées, je pense que ça va quand même diminuer, parce que pour le moment, on est sous une forme d'impunité. J'ai entendu la femme qui témoignait tout à l'heure et qui demandait que les militaires soient changés. C'est parce que, bon, ils sont toujours confrontés à leurs agresseurs. Et ça, ce n'est pas possible. Ça veut dire que après avoir été agressé, vous êtes encore humilié. Vous souffrez encore de le voir et puis vous n'avez pas d'issue à votre problème. Donc je pense qu'on doit commencer par là. Et bien sûr, éduquer les victimes et les sensibiliser, il faut parler. Parce que si la parole n'est pas libérée, c'est impossible d'aider les personnes.
D'accord. Tania Mokolo Njoli, nous restons dans ce débat avec vous. Saoli Diakese, secrétaire exécutif en charge des cliniques juridiques dans l'Association des femmes juristes congolaises dans la province du Congo central. Un peu la même question hein, qu'à Tania Mokolo Njoli tout à l'heure. Pour vous, en 2024, que signifient notamment les concepts violence administrative, professionnelle, sociale, culturelle, psychologique, physique, et que peuvent signifier pour vous, en un mot, la lutte contre les violences faites à la femme?
Ben merci et bonsoir à tous nos auditeurs. En 2024, aujourd'hui, nous pouvons dire nous ne pouvons pas méconnaître les avancées. Parce qu'en termes de violences sexuelles, nous venons quand même de loin. Et en termes de cadre juridique, ce n'est pas ce qui manque dans notre pays. En tant qu'avocate, dans l'Association des femmes juristes congolaises, nous nous rendons compte que l'arsenal juridique, même si elle n'est pas complète, mais il y a suffisamment de lois qui peuvent, voilà, encadrer cela. Mais nous avons un souci. Un souci au niveau de la répression. En 2024, aujourd'hui, beaucoup des langues vont se délier pour dire que voilà, nous invitons les femmes, les jeunes filles et les hommes, pourquoi pas, à dénoncer. Mais pour pouvoir dénoncer, il faudrait trouver un cadre idéal pour être entendu. Là est la question. Quand vous avez une victime qui vient ester en justice, parce que nous, avec l'Association des femmes juristes congolaises, nous accompagnons ces femmes. Nous accompagnons ces victimes, on va dire gratuitement, codéo, pour les accompagner pour que justice soit faite. Mais parfois, quand vous vous retrouvez, vous accompagnez une femme victime de violences domestiques, pour ne pas dire conjugales. Mais le magistrat que vous avez en face, il dit déjà, mais maître, ça peut se régler entre époux. Donc, ils estiment que par rapport à la culture, c'est une dame qui ne peut pas recourir à la justice. Donc, vous comprenez qu'en 2024, nous avons encore un souci lié à la culture. Donc, même au niveau des sensibilisations, nous estimons que, bon, en amont, il faut sensibiliser, et en aval, il faut réprimer. Encore hausser le ton sur la répression, parce que, qu'on se le dise aujourd'hui, madame qui a réagi avant moi l'a dit, nous vivons une sorte d'impunité. La loi est là, mais malheureusement, nous sentons que voilà, la répression comme telle n'est pas forte. Parce que moi, j'estime que s'il y avait suffisamment de répression, mais écoutez, les auteurs allaient craindre, les auteurs allaient estimer que voilà, c'est un peu comme on dit aujourd'hui en Europe, les femmes battues, oh, il y en a toujours. Mais aujourd'hui, les hommes, avec les lois établies, avec la répression de la police, les gens ont peur. Ils se disent que non, c'est toi l'homme qu'on va mettre dehors. C'est pas le cas chez nous. Chez nous, pas seulement en RDC, particulièrement en Afrique. Parce que la femme, toujours du point de vue culturel, est considérée toujours comme un sous-homme. Oui, au-delà du fait qu'il y a des soucis en termes d'autonomisation, mais aujourd'hui aussi, il y a des avancées. Il y a des femmes au poste décisionnel. Nous, par exemple, au barreau du Congo central, nous avons une dame. Nous avons pas un bâtonnier, mais une bâtonnière. Et voilà, on peut dire que le droit aujourd'hui, l'avocature est asexuée, n'a pas de sexe. Mais vous imaginez l'effort que des confrères hommes donnent la voix à une femme. Ça veut dire qu'il y a eu des avancées. C'est d'ailleurs la première femme qui a été élue dans notre barreau. Donc ça veut dire qu'au niveau culturel, il y a aussi des avancées. Mais on fait face toujours à cette politique de sous-homme. La femme, elle a beau être, aujourd'hui nous avons une première ministre, c'est une très bonne chose. Mais je pense qu'il y a toujours aussi, même au niveau du gouvernement, il y a certains hommes qui s'estiment toujours un peu lésés d'être dirigés par une femme parce que culturellement, c'est un poids, c'est un fardeau. Donc, jouer sur ça, c'est un processus. Malheureusement, on ne peut pas mettre fin à cela comme une baguette magique. C'est un processus et ce processus en 2024, il est déjà en cours. C'est déjà bien parce que nous estimons, au niveau de l'Association des femmes juristes congolaises, le processus est en cours par rapport au changement de comportement, par rapport à l'attitude positive de la communauté. Et voilà pourquoi nous, d'ailleurs, nous sensibilisons déjà la base. Donc, nous sommes plus actifs aussi au niveau des élèves, des étudiants, parce que nous estimons que c'est eux l'avenir de demain. Donc, déjà, que ce jeune homme, que cette jeune femme connaissent pas seulement les droits de l'un ou de l'autre, mais s'engagent aussi à respecter, à ne pas commettre les atrocités que les aïeux ont commises. Ça, c'est déjà un point. L'autre point aussi sur lequel nous attelons, c'est demander aux autorités de pouvoir accompagner ces femmes qui dénoncent. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui disent, ça ne sert à rien de dénoncer, parce qu'on fait face à un mur. Parce que la plupart des cas, quand on dénonce, c'est un autre homme qui est censé vous juger. Parce qu'entre nous, ça, oui, il y a des femmes magistrates, mais la plupart des temps, ce sont des hommes. Et déjà, ils vous disent, c'est déjà une barrière. Oh, mais maman, vous ne pensez pas que vous aurez plus d'hommes. Ils ont tendance à banaliser une violence psychologique qu'une personne a vécue pendant autant d'années, parfois, dans le mariage. Quelqu'un qui a autant souffert, mais malheureusement, on fait face à un magistrat qui est comme un mur blanc, qui est comme une clôture. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que si la porte est ouverte, la porte n'est pas fermée, même ses victimes, on va sentir que de plus en plus, beaucoup vont dénoncer. Mais beaucoup ne dénoncent pas parce qu'ils estiment que déjà, on fait face à un magistrat qui est un mur. Et puis après, comme on l'a dit tout à l'heure, l'auteur va se balader, voilà, dans la communauté, en toute impunité. Alors, à quoi bon s'humilier? À quoi bon, voilà, sortir de mon silence? Les gens, les femmes acceptent de ne pas franchir les pas. Et c'est fort dommage. Voilà pourquoi en 2024, nous estimons que ce processus aussi de dénonciation doit être accompagné. Comme on accompagne aujourd'hui les victimes pour la reconstitution, c'est très bien. Et il y a autant de fonds qui ont vu le jour pour accompagner, comme nous disons toujours, la partie civile à pouvoir recouvrer ses droits. Et les aides psychologiques sont en marche. Mais le plus grand accompagnement, c'est justement cette porte ouverte pour que cette femme puisse parler, dire oui maman, qu'est-ce qui s'est passé, mais comment tout ça, voilà, papa. Oh. Mais quand les papas sont toujours des hommes intouchables, les maris, les époux, les partenaires, les conjoints, parce que aujourd'hui au travers le monde, c'est surtout ça, cette violence. Ne voyons pas toujours cette guerre. Parce qu'on va dire la guerre, oui, le Congo est agressé, l'Est, tout ça. Mais moi, j'ai vu au Congo central. J'ai vu au Congo central et le bilan, il est négatif. Le Congo central n'est pas agressé comme l'Est de mon pays. Mais qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons pratiquement la même situation. Des bébés de 6 mois qui sont violés. Un bébé de 6 mois. Comment vous pouvez imaginer qu'un homme digne puisse violer un bébé de 6 mois? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, même dans la tête de nos concitoyens, il y a quelque chose.
C'est un peu comme j'ai changé tout à l'heure avec Tania Mokolo. De nombreux rapports internationaux reconnaissent que malgré la présentation de mieux en mieux aboutie des objectifs du combat d'arrêter les violences contre les femmes, mais les objectifs restent toujours peu atteints, ou alors on constate que les violences restent toujours aussi nombreuses. Est-ce que selon vous, un peu comme je posais la question tout à l'heure à Tania Mokolo, est-ce que le fait de chercher plusieurs objectifs en même temps, parce que c'est la question est aussi multiple. Il faut combattre à la fois les violences administratives, professionnelles, sociales, culturelles, psychologiques, physiques et autres. Est-ce que si on n'atteint pas les objectifs poursuivis, un peu comme semble reconnaître les rapports internationaux, c'est parce que il y a plusieurs choses à faire au même moment. Ça, c'est un premier volet de cette question. L'autre volet de cette question, c'est que dans l'association des femmes juristes congolaises, par exemple, quel est le programme qui existe pour aborder tous ces objectifs que je viens de citer au même moment? Existe-t-il un programme? Existe-t-il un chronogramme? Et s'il existe, comment vous avez prévu aborder tous ces programmes, tout ce programme si vaste?
Nous, déjà, au niveau de l'association des femmes juristes congolaises, annuellement, nous établissons un programme. Non seulement pour l'accompagnement, parce que l'accompagnement judiciaire et juridique s'est fait au jour le jour, mais en termes de plaidoyer surtout, parce que on doit être accompagné, parce que bon, nous ne vivons pas au paradis, nous savons que nous ne pouvons pas dire qu'on va arrêter complètement les violences à l'égard des femmes. Non, on n'est pas au paradis, on est sur terre, il y aura toujours des infractions, il y aura toujours des imperfections. Mais réduire sensiblement, vous pouvez dire, c'est au travers des plaidoyers. Quels plaidoyers? Les plaidoyers notamment en matière de répression. Plus la répression sera grande, plus nous aurons moins d'auteurs. Mais quand on n'a pas de répression, ça c'est à tous les niveaux, hein. Quand il n'y a pas de répression, eh bien écoutez, toutes ces inégalités vont persister, parce que en un seul mot, toutes ces violences, c'est basé sur quoi? C'est basé sur les inégalités.
Est-ce qu'aujourd'hui encore, en 2024, si la femme est toujours aussi violentée, est toujours aussi victime des violences, généralement de la part du camp plus fort, et ce camp plus fort est souvent le camp des hommes, est-ce que c'est parce que c'est justement l'homme reste cet acteur qui physiquement a un peu un avantage par rapport à la femme? Et est-ce que c'est parce que la femme justement est encore cet être physiquement un peu en désavantage par rapport au camp agresseur? Est-ce que c'est ça la raison aujourd'hui encore en 2024 qui favorise ces violences vis-à-vis de la femme, ou il y a d'autres raisons identifiées qui cause ces violences?
Mais moi, je pense que la raison majeure, vous venez de le dire, c'est effectivement ça, parce que quand on dit l'homme fort n'est pas fort que de manière dans l'autonomie financière, mais c'est de manière physique aussi. Toutes ces violences, on se rend compte, parce qu'il y a des femmes qui ont réussi aujourd'hui, qui sont autonomes financièrement, mais elles sont victimes des violences de la part des hommes. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus la force économique, mais c'est la force physique. Les hommes usent des forces physiques, justement, pour continuer à garder les femmes sous leur coupe. C'est ça. De manière claire, c'est toujours ça. Les inégalités par rapport, ça persiste même en 2024. Nous tournons toujours autour de ça. Parce qu'au niveau décisionnel aussi, même si les femmes nous faisons des efforts pour y arriver, mais au finish, les grands décideurs, c'est qui? Ce sont les hommes. Quand on vous parle de parité aujourd'hui, ils disent oui, la loi sur la parité, tout ça. Mais vous trouvez des gouvernements provinciaux où il n'y a aucune femme. Mais entre nous, soit dit, vous trouvez ça normal? Vous estimez que dans toute une province, il n'y avait pas suffisamment de femmes pour pouvoir être dans ce poste ministériel? Mais c'est ce qui persiste. C'est cette violence. C'est cet avantage de l'homme qui persiste et qui garde toujours la femme sous sa coupe pour être victime. Et c'est ça qui doit faire l'objet justement du changement dont on a besoin pour pouvoir avancer.
Saoli Diakese, nous restons avec vous dans nos débats. Le temps de donner la parole au seul homme ce soir qui participe avec vous dans ces débats, aussi pour avoir un regard peut-être différent, on va le savoir tout à l'heure. Jean-Claude Disachi, éducateur, conseiller d'orientation, psychologue et assistant à l'université de Kinshasa. Vous venez d'écouter les deux premières qui se sont exprimées, comme j'ai nous l'avons dit dans notre introduction, l'année prochaine, le programme de Beijing totalise ses 30 ans. Les 16 jours d'activisme, ça fait déjà quelques années que cette campagne existe. Les structures pour encadrer l'octroi aux femmes à plus de droits existent aussi depuis longtemps. En 2024, quand on parle de lutte contre les violences faites aux femmes ou lutte pour les droits de la femme, 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, pour vous, ça signifie quoi?
Merci beaucoup, Monsieur Donald Yakessi, pour la question. Ce que j'aimerais dire, c'est que dès 1995 à aujourd'hui ou à l'année prochaine, nous atteindrons pratiquement 30 ans. Donc, 30 ans, il est plus que temps, à mon sens, que nous puissions un peu évaluer le programme de Beijing. Nous devons nous demander qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui est tenté d'être fait, et qu'est-ce qui peut être fait en termes de réajustement des efforts qui sont déjà mis sur terrain. J'ai bien suivi mes co-débattrices, qui sont beaucoup revenus sur l'arsenal juridique et qui sont restés beaucoup plus dans le régime d'expansion, le régime punitif. Moi, je pense que en ce moment, nous devrions beaucoup plus nous interroger, pas seulement sur l'arsenal juridique parce qu'il en existe, mais nous interroger sur les mentalités des populations, les mentalités des communautés. Nous interroger effectivement sur la relation sociale entre l'homme et la femme. Et ici, j'aimerais aussi préciser que les violences dont il s'agit ici, très souvent, nous avons souvent tendance à penser qu'il ne s'agit que des hommes qui violentent des femmes. Mais actuellement, vous devez savoir qu'il y a aussi des femmes qui violentent d'autres femmes. Et ces cas ont été prouvés effectivement par les rapports des Nations Unies par rapport à ce qui se passe dans des zones de guerre, par exemple. Ou, comme le disait par exemple Madame Bintou Keïta, qui a condamné les pratiques de diffusion répétées dans les réseaux sociaux des images qui déshonorent pratiquement la femme. Il y a aujourd'hui des sociétés lesbiennistes, des sociétés LGBT, qui aussi s'adonne à ce genre de diffusion des images qui sont aussi une forme de violence faite à la femme et une forme de violence faite à la jeune fille. Donc moi je pense qu'au bout de 30 années, il est temps que nous puissions nous interroger sur ce qui a déjà été fait et comment réajuster les mentalités des gens. On a tantôt ici, j'ai suivi mes co-débattrices qui ont évoqué ce qui s'est se passe aujourd'hui avec le cas Pellico, l'affaire Pellico en France par exemple, vous voyez qu'il y a tout un arsenal juridique tout autour de ça. Mais quelles sont les conditions sociales qui font en sorte que nous puissions toujours avoir des violeurs ou des gens qui sont prêts à violenter des femmes et des jeunes filles? Là, nous devions nous interroger, par exemple, sur ce que nous mettons en place dans notre société comme mécanisme d'échange en termes de considération entre l'homme et la femme. Et j'ai aimé ce que les autres co-débattrices ont dit. L'image, la représentation que nos sociétés ont de la femme souffre. Cela est également dû à des facteurs sociaux, mais aussi à des facteurs religieux. Vous devez savoir que cette histoire de violence sexuelle sous des pays à caractère, j'ai dit entre guillemets, pays islamistes, comme en Iran par exemple, vous verrez que la charia réduit la femme à une certaine position où il y a une certaine dominance de l'homme sur la femme. Cela se vit également dans des sociétés indo-pakistanaises, en Asie pratiquement du Sud et en Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est où se vivent des guerres. Je ne vais pas ici en tout cas citer le Soudan, qui est pratiquement dans la même situation. Donc, monsieur le journaliste, pour revenir à votre question, il est grand temps aujourd'hui que nous puissions nous demander qu'est-ce que nous avons déjà fait en termes de lutte contre les violences faites aux femmes et qu'est-ce qui a été bien fait et qu'est-ce qui est à corriger. Je crois que c'est le moment d'interrogation, de questionnement et d'évaluation de ces problèmes.
Tout à fait. Jean-Claude Dissachi, est-ce qu'on peut dire qu'en République démocratique du Congo, on a quand même pris conscience d'un certain nombre de choses? On se rend compte qu'en quelques années, par exemple, la représentativité de la femme dans les postes nominatifs assez avancé et même dans les postes électifs, on voit les femmes de mieux en mieux faire des efforts pour compétir. La représentation de la femme dans les institutions congolaises est passée par exemple à plus de 15%, voire dépassant les 20%. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une avancée? Aujourd'hui en RDC, il y a quelques années, on avait une présidente de l'Assemblée nationale qui était une femme. Aujourd'hui, on a une première ministre qui est une femme. Est-ce que tout cela, en 2024, peut être considéré comme une avancée, ne fût-ce que sur le plan administratif et professionnel?
Naturellement, monsieur le journaliste. Et là, c'est ce que je disais tantôt, nous devons mettre cela en termes des actifs de ce qui a déjà été fait dans le bon sens. J'ai dit que lorsque nous faisons une évaluation, nous devons voir ce qui a été fait et ce qui doit être ou qui reste encore à être. Donc, ce que vous citez tantôt, monsieur le journaliste, fait partie des avancées significatives dans ce domaine de l'autonomisation de la femme et de la valorisation de la femme. Malheureusement, ces efforts restent encore non perceptibles, c'est-à-dire en termes d'impact sur la société. Vous l'avez vous-même dit, les rapports des Nations Unies attestent par contre d'une augmentation du taux de violence sexuelle ou d'autres formes de violence, par exemple conjugale ou bien domestique, et certaines de féminicides faites à la femme. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des avancées qui sont certainement faites à ce niveau, mais nous avons besoin de faire encore plus, pas seulement sur le plan administratif, mais c'est un travail qui doit être fait. Vous devez savoir, monsieur Dona, que l'un des travaux qui reste encore à être fait, c'est le fait de briser le silence auprès des victimes. Il y a très peu d'associations qui accompagnent ces femmes ou ces jeunes filles qui sont victimes de violences sur le plan psychologique. Il y a très peu d'accompagnement psychologique. J'entends parler d'accompagnement juridique, mais je n'entends pas souvent parler de l'accompagnement psychologique parce que tenez. Une personne qui a été, par exemple, victime de violences sexuelles va souffrir d'un état de stress post-traumatique. Vous allez constater que cette personne va vivre dans l'anxiété, dans une certaine culpabilité, et ça peut amener la personne même à la dépression, à une perte d'estime de soi, ou à adopter des comportements autodestructeurs, tels que verser dans l'alcoolisme, verser dans la drogue, ou verser par exemple dans le proxénétisme. Donc, tout ça, vous voyez qu'il ne suffit pas seulement de procéder à certaines nominations au poste de responsabilité des femmes, mais aussi, il faut voir la question de manière beaucoup plus globale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un travail sur le plan éducatif, dans nos écoles, déjà dès les bas âges, il faut qu'il y ait une implication sérieuse de notre gouvernement dans tous les programmes scolaires pour que nous puissions finalement arriver à amener notre population à un apprentissage transformateur.
Jean-Claude Issachi, je vous sens qui est déjà entré dans les solutions, les pistes de solutions pour résoudre ces problèmes et c'est bien. Mais seulement nous allons y revenir pour avant de conclure notre émission pour que vous puissiez vous étaler un peu plus en détail sur ces questions-là. Le temps de donner un peu la parole à nos auditeurs qui sont nombreux à réagir sur FM mais aussi sur de nombreuses plateformes digitales. Il y a par exemple Joseph Miji qui dit le sujet est complexe, la violence faite à la jeune fille, oui, pas aux femmes. Les femmes sont conscientes de tout, surtout celles qui ont atteint la majorité professionnelle, le fameux Balthazar, dans son affaire, a prouvé beaucoup de choses. Les femmes n'ont plus d'excuses à ça. Ça, c'est Joseph qui intervient. Il y a Donatien Kashima, qui appelle depuis le Kassai central, qui dit « Vous ne luttez pas contre la faim au Congo, ce n'est que la violence. » Nous allons continuer à faire réagir, à écouter nos auditeurs, mais aussi à faire réagir nos invités. Tania Mokolo, vous allez, en plus de ce que nous venons de lire comme message, écouter ensemble avec nous le commentaire de cet auditeur qui nous appelle de Kisangani. Ensuite, vous allez donner votre avis sur son commentaire, mais aussi tous les autres commentaires que nous avons déjà jusqu'ici.
Fabrice Debo, nous appelons depuis la ville de Kisangani, coordonnateur provincial du Parlement des enfants et des jeunes. Nous prenons les bonnes valeurs qui respectent à la dignité humaine en protégeant la femme. Malheureusement, nous constatons les grandes violations des droits de cette dernière, surtout particulièrement dans la zone de cœur, notamment à l'est de notre pays. Sans la paix, rien ne peut être. Cependant, ne soyons pas indifférents face aux violences faites à la femme. Aussi, cette femme doit savoir qu'elle a également des devoirs vis-à-vis de la communauté, car les droits marchent ensemble avec les devoirs. Elle-même doit se discipliner pour que toujours elle soit respectée. Et cette vidéo d'activisme doit nous rappeler le respect de nos engagements, étant donné que nous faisons partie des pays membres des Nations Unies qui prônent la masculinité positive. Cette femme doit mériter l'attention de notre société, celle qui souffre dans son silence, celle qui donne vie à beaucoup de monde.
Tania Mokolo, votre commentaire?
Oui, allô?
Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction juste ici de nos auditeurs, mais aussi particulièrement de la réaction de cet auditeur qui nous a appelé depuis Kisangani?
Oui, j'ai apprécié sa réaction. Hein. On va dire que toute réaction est bonne. Ça veut dire qu'au moins qu'ils sont intéressés et qu'ils sont à l'écoute. Et je vois que de ce qu'il a dit et de ce que j'ai entendu des autres auditeurs, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup d'éducation à faire pour changer les mentalités, introduire l'égalité des genres, les droits humains, droits des hommes, droits de la femme, promouvoir la masculinité positive. Mais justement, par rapport à ce monsieur qui s'en gagne, c'est vraiment mobiliser les communautés locales. J'ai l'impression que lui, en tant que coordonnateur, il a pris le problème de sa communauté personnellement. Donc, je trouve que c'est très intelligent, c'est assez positif, sa réaction.
Mais vous avez, on va pas revenir sur ce dossier qui est assez privé, notamment le chapitre Balthazar, ça vous est arrivé dans les oreilles, vous avez certainement interrogé vos compères ou vos consoeurs femmes pour essayer d'avoir leur avis, mais beaucoup de gens, c'est peut-être l'avis des hommes, ont estimé que dans cette affaire, les femmes n'ont pas protesté plus que ça. C'est vrai que le coupable, c'est celui qui a diffusé les images, mais dans la moralité, peut-être africaine, on avait pensé que les femmes protesteraient un peu plus pour ce qui s'est passé. Mais globalement, dans les commentaires que nous avons perçus, je ne sais pas si c'est votre cas, on a eu l'impression que les femmes sont restées timides par rapport à ça. Est-ce que selon vous, dans cet épisode, à part le fait que le responsable reste celui qui a diffusé, est-ce que les femmes auraient dû protester plus que ça contre cette violence visuelle qui a été et contre l'image de la femme qui a été montrée de cette façon-là?
Bon, le dossier Balthazar, je vous avouerai que je n'ai pas vraiment tout suivi. Je connais dans les grandes lignes, mais je pense que pour se prononcer, il faut vraiment savoir. De ce que je sais, c'est que ce sont des vidéos personnelles de ce monsieur. Bon, jusqu'à présent, je ne saurais pas dire si les femmes étaient au courant, participatives ou quoi.
Vraiment, oui, nous n'entrons pas sur ces questions-là. Mais ce que je vais dire, interroger un peu votre avis personnel, est-ce que les femmes, les associations de femmes auraient dû protester plus que ça, notamment sur le fait que l'image de la femme a été quand même, même si c'était une affaire privée, a été quand même un peu écornée par ça, ou bien tout cela est enfermé dans les aspects privés.
Bon, moi je pense que c'est, comme vous dites, c'est une affaire privée, et vous avez parlé de moralité, je crois après, c'est une question de moralité, hein. Ce monsieur, selon sa morale, ça l'intéressait de faire ça. Bon, oui, ça choque. Moi, personnellement, bon, ça m'a choqué, cette histoire. Mais après, est-ce que ça touche l'image de la femme? C'est ça qu'on doit... Peut-être on peut se réunir en communauté, justement, pour se poser des questions, pour étudier l'impact que ça a sur les jeunes garçons et sur les jeunes filles. Est-ce que ça va pousser les jeunes garçons à faire la même chose? Est-ce qu'ils vont trouver ça intéressant? Est-ce que les jeunes filles vont se dire « Ah, mais alors, c'est pas grave, c'est des choses qu'on peut le faire ». Dans cet aspect-là, oui, ça peut être éducatif, et je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aborder la question, au lieu d'en parler à tort et à travers, de rigoler, parce que je sais qu'on est un pays de buzz, donc tout devient « Ah, Balthazar ceci, Balthazar cela ». Mais je crois que il serait intéressant d'aborder l'aspect éducatif par l'impact que ça peut avoir sur la jeunesse et sur les populations, comme tout le monde a accès aux réseaux sociaux, peut-être des populations un peu plus reculées qui n'ont pas un accès à quelqu'un avec qui échanger par rapport à ces situations-là. Non, je pense que ça doit être une occasion d'échange et de communication et d'éducation pour tout le monde.
Merci Tania Mokolo. Saoli Diakese, nous allons vous inviter aussi à être attentive pour commenter cette réflexion de cet auditeur qui nous appelle de Bounia.
Allô, je vous appelle à partir de Bounia Nouturi. Les 16 jours d'activisme en faveur des femmes en RDC révèlent une réalité préoccupante. Malgré une sensibilisation croissante, les violences des genres continuent d'augmenter. La condamnation des pratiques nuisibles comme la diffusion d'images des violences est essentielle, mais est une chose qui demande des efforts. Pour réduire efficacement cette tendance, il est impératif d'adopter une approche holistique qui inclut des lois plus strictes contre les violences, des programmes éducatifs sur l'égalité des genres dès le plus jeune âge, et soutien psychologique et juridique accessible aux victimes, ainsi qu'une mobilisation active des hommes à tâches alliés dans cette lutte.
Saoli Diakese, quel est votre commentaire?
Je pense que notre auditeur de Bounia a résumé en gros tout ce dont nous avons parlé. Il a soulevé le problème et il a donné des recommandations. Donc je partage vraiment son avis et je le remercie d'ailleurs.
Alors, que pensez-vous notamment du commentaire de la patronne de la MONUSCO qui a dénoncé la propagation souvent assidue d'images de violence concernant la femme, et elle a estimé que cette propagation était une grave atteinte à éviter.
Oui, malheureusement, je pense que elle a raison, parce que avec les réseaux sociaux actuels, c'est une forme aussi effectivement des violences que beaucoup utilisent aussi pour humilier les femmes. Beaucoup utilisent les réseaux sociaux pour cela. Et je pense que justement, il faudrait vraiment un cadre juridique qui puisse réprimer et décourager les susceptibles auteurs, que ce soit des femmes ou des hommes, parce que on a vu des femmes aussi se venger de leurs rivales en publiant justement des images peu louables de leurs, on va dire, rivales. Et donc, je pense qu'elle a totalement raison, et il faudrait justement des mécanismes pour pouvoir accompagner la réalisation de ce dont elle a parlé.
Merci à vous, Saoli Diakese. Jean-Claude Dissachi, éducateur, conseiller d'orientation, psychologue et assistant à l'université de Kinshasa, pour vous aussi ce commentaire.
Gaston Bilambo depuis Sangui, province de la Tchopo. Les 16 jours d'activisme en faveur des femmes en RDC en 2024 montrent une prise de conscience croissante sur la violence basée sur les genres. Toutefois, malgré les efforts, les violences continuent d'augmenter, en partie à cause de l'impunité et de la banalisation des actes. La diffusion des images choquantes sur les réseaux sociaux aggrave la victimisation des femmes, comme l'a souligné la chef de la MONUSCO. Pour inverser cette tendance, il est crucial de renforcer les lois, promouvoir l'éducation sur les droits des femmes et la lutte contre les stéréotypes de genre, ainsi que d'encourager la solidarité communautaire. La régulation stricte des contenus violents en ligne et le soutien psychologique aux victimes sont aussi essentiels pour briser ce cycle de violence.
Jean-Claude Dissachi.
Oui, je vous écoute.
Votre réaction par rapport à ce dernier commentaire, cet auditeur qui estime que notamment il faut toucher aux lois, à l'éducation, pour avancer dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
Je salue l'intervenant de tout à l'heure, M. Gaston Ilambo, et je suis en accord avec ce que disait tantôt M. Gaston Ilambo. Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, il faut non seulement s'arrêter à un arsenal juridique ou à un accompagnement juridique, à ne voir la question que sur l'aspect coercitif ou punitif, mais aussi il faut voir l'accompagnement psychologique qu'il faut réserver non seulement aux victimes, c'est-à-dire les femmes qui sont violentées, mais aussi à ceux qui sont auteurs de ces violences-là. Vous devez savoir que celui qui est aujourd'hui auteur d'une violence quelconque sur la femme a lui-même été une victime jadis, autrefois. C'est comme ça qu'il faut pénétrer psychologiquement la personne pour savoir qu'est-ce qui motive effectivement les violences faites auprès des femmes et auprès des jeunes. Quand on a été souvent témoin de ces violences-là, quand on en a souffert depuis l'enfance, on ne devient que bourreau par la suite. Donc cet accompagnement-là ne devrait pas seulement se limiter du côté des victimes, mais cet accompagnement psychologique doit également exister du côté de ceux qui sont bourreaux dans cette histoire de violence faite aux femmes et à la jeune fille. Donc je salue M. Gaston et je suis parfaitement d'accord avec tout ce qu'il a évoqué autour de cette question de violence faite à la femme et à la jeune fille.
Alors Jean-Claude Dissachi, nous sommes en train de conclure notre émission. De toutes ces violences subies par la femme, on constate quand même qu'il y a une catégorie qui est plus prépondérante, notamment la catégorie de violences sociales, psychologiques et physiques. L'année prochaine, comme on a dit, le programme de Beijing va totaliser ses 30 ans d'existence. Comment, selon vous, en très peu de mots, la RDC et le monde peut faire pour que, en 2025, on ait beaucoup progressé, notamment sur les violences les plus prépondérantes, les violences psychologiques, sociales et physiques?
Je crois que nous l'avons déjà dit au départ, monsieur le journaliste, l'une des actions que nous devons mener, ou que la République démocratique du Congo doit mener en cette matière, c'est d'abord la mobilisation des communautés. Nous devons agir auprès des communautés pour arriver à un changement de mentalité, à une reconsidération de la femme, à changer la représentation ou l'image que nous avons de la femme, souvent comme un être faible, donc sujette à beaucoup d'impositions et sujette à tout genre de violence. Donc il faut que nous puissions pas seulement mobiliser les communautés, mais aussi arriver à un apprentissage transformateur, je l'ai dit, au niveau déjà de la base de nos écoles, dès l'école primaire. Nous devons apprendre, institutionnaliser cette formation à la modification comportementale. Il faut que la société tout entière s'active. Il ne faudrait pas que ce soit seulement l'affaire du gouvernement, il ne faudrait pas que ce soit seulement l'affaire des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, mais il faudrait que ce soit l'affaire de tout le monde. J'ai l'impression que beaucoup semblent regarder cette histoire de violence faite à la femme de loin. Mais cela demande une implication de tout le monde, parce que ce qui arrive à l'autre jeune fille peut arriver à votre enfant, cela peut arriver à votre sœur, à votre épouse ou à quelqu'un d'autre qu'il soit seulement de votre famille ou bien proche. Donc nous devons regarder ce problème vraiment avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de sérieux. Et l'une des recommandations que je peux faire au gouvernement, c'est d'accompagner effectivement les femmes à briser le silence. Et si les femmes arrivent à briser le silence tout autour de ça, d'abord ça va aider les femmes à se libérer, parce que quand la femme arrive à parler, il y a ce qu'on appelle le nœud psychologique qui se dénoue et le poids du problème est partagé. On peut voir la personne tendre vers une certaine amélioration et quitter par exemple la dépression qui peut arriver en pareille situation ou quitter l'état de stress post-traumatique qui arrive très souvent quand on a été victime de viol ou de violence en endroit
de la femme. Merci Jean-Claude. Voilà. Dissachi, Saul Lidiaké, c'est secrétaire exécutif en charge des cliniques juridiques à l'Association des femmes juristes congolaises dans la province du Congo central. Y a-t-il, selon vous, une responsabilité de la femme ou des personnes féminines victimes de violences contre elles de la part de leurs bourreaux, hommes ou autres femmes, ou de la part de l'absence de la loi, des choses que qui pourraient être changées pour améliorer cette lutte-là?
Je pense que votre question pouvait être reformulée d'une autre manière. C'est pas de responsabilité. Que c'est comme si c'est comme si on disait que c'est cette femme qui elle-même s'est livrée à ce qu'elle soit victimisée. Donc moi, je pense que la femme en soi a une responsabilité au sein de la communauté. Il va de soi. Mais cette responsabilité, ce n'est pas une responsabilité dans le sens où, parce qu'aujourd'hui, on va dire typiquement, beaucoup disent, voilà, on parle de viol, des violences faites à la femme par rapport, voilà, on va dire ça comme ça se dit couramment, voilà, la femme ne s'habille pas bien, le comportement, tout ça, ça c'est ce n'est vraiment pas la base. C'est vrai que de manière générale, la femme, de par notre culture, elle est sacrée. C'est celle qui tient d'ailleurs voilà, la culture, la nation même, entre ses mains. C'est elle qui éduque la population. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de cela par rapport à son accoutrement, par rapport à son comportement, et comme quoi c'est elle qui pousse les autres à lui faire violence. Parce que sinon, on ne pourrait pas justifier ce qui se passe, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, une violence faite aux jeunes filles et violence faite aux femmes. Même si les femmes sont conscientes de leurs droits, elles sont aussi victimes. Elles sont aussi victimes parce qu'une femme qui est mariée, par exemple, ou qui a un partenaire, et qui s'est fait bastonner, qui tous les jours fait face à des violences psychologiques, ce n'est pas elle qui va aller chercher ça. Donc, moi, je ne pense pas qu'on va parler des responsabilités de la femme par rapport à ça, mais on peut parler de la responsabilité de la femme dans le cadre éducationnel pour pouvoir, justement, en tant que mère, éduquer, justement, ses enfants, garçons et filles, à pouvoir respecter les droits des uns et des autres et à ne pas s'adonner à la violence physique ou verbale ou psychologique à l'égard de l'autre sexe. Je pense que ça peut être présenté de cette manière-là.
Merci Saul Idiakese. Tania Mokolo Njoli, conseillère parlementaire au cabinet de la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de terminer notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire en plus, en guise de conclusion, pour notre débat de ce soir?
En guise de conclusion, je dirais que, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, je crois qu'on a abordé les aspects psychologiques, physiologiques, les aspects légaux. Je pense que dans ce combat, on a besoin des hommes. On a vraiment besoin d'inclure les hommes dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Parce que quand les femmes s'expriment seules, les hommes ont l'impression qu'on parle contre eux. Alors que non, on a besoin d'eux pour arrêter. On a besoin d'eux pour créer le dialogue communautaire, pour discuter des normes culturelles et les encourager dans le rôle actif dans la prévention par rapport à leurs enfants, l'éducation des fils. Et les hommes qui soutiennent l'égalité et dénoncent les violences, ils doivent s'exprimer aussi, ils doivent nous aider. Et ensuite, je pense, pour finir, il faut vraiment qu'on trouve des mécanismes pour évaluer les problèmes régulièrement. parce que comme on dit, on arrive aux 30 ans. Moi, cette campagne de 16 jours, je l'ai faite, je crois, il y a 2 ans. Je ne sais pas, entre ma participation il y a 2 ans et aujourd'hui, est-ce que ça a pu s'évoluer? Est-ce qu'il y a eu régression? Donc, on devrait pouvoir mettre en place des mécanismes pour mesurer l'impact des initiatives et réajuster les programmes en fonction des résultats qu'on peut observer.
Merci à tous les trois pour votre présence à ce numéro de dialogue entre Congolais. Mimi Kindou, Kelim Kouté, Hervé Voka, Clément Chimanga, John Chiboaboa et Arcel Kajour m'ont aidé à préparer cette émission de ce soir. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir.